VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 28 août 2023. Le Gabon dans l'attente des résultats des élections. Les forces de l'ordre sont déployées dans la capitale Libreville. Pour sa part, l'opposition clame déjà victoire pour le scrutin présidentiel.
Ce qui est désormais attendu de M. Ali Bongo Ondimba est qu'il accepte le choix souverain gabonais.
Extrait de la déclaration de la campagne de l'opposant Albert Ondo Ossa, adversaire du président Ali Bongo Ondimba. Au Zimbabwe, l'opposition conteste également les résultats officiels et revendique la victoire à la présidentielle. L'ambassadeur français va rester au Niger malgré les pressions de la junte, affirme le président Emmanuel Macron. Les États-Unis et la Chine signent un accord pour discuter de leurs nombreux contentieux commerciaux. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Eco pour l'instant, le journal. Les Gabonais attendent toujours les résultats des élections présidentielles et législatives de samedi qui se sont accompagnées de coupures d'Internet et un couvre-feu nocturne. Les forces de l'ordre quadrillent la capitale Libreville. Le président sortant Ali Bongo Ondimba est défié par le candidat de l'opposition Albert Ondo Ossa dont les partisans revendiquent déjà la victoire. Écoutons Mike Jocton, l'un des porte-parole du porte-étendard de l'opposition.
C'est le moment d'interpeller nos compatriotes qui gravitent autour de ce pouvoir plus que jamais dépourvu de légitimité, principalement celles et ceux autour de M. Ali Bongo Ondimba, sur la nécessité de s'incliner humblement devant la volonté du peuple gabonais. Ce qui est désormais attendu de M. Ali Bongo Ondimba est qu'il accepte le choix souverain du peuple gabonais, qu'il le respecte et qu'il organise sans décision de ce temps, la passation du pouvoir en faveur du professeur Albert Ondo Ossa. Notre candidat renouvelle à tous nos compatriotes, sans exclusive, son invitation à la discipline et à l'ordre. Il s'adressera prochainement au peuple gabonais.
Mike Jocton, directeur de campagne de la coalition Alternance 2023. Nous reviendrons sur les élections au Gabon dans la partie magazine avec notre correspondant à Libreville tout à l'heure. Au Zimbabwe, le chef de l'opposition Nelson Chamisa conteste la réélection du président sortant et revendique la victoire pour la présidentielle. Emmerson Mnangagwa a été reconduit pour un second mandat avec plus de 52% des suffrages selon les résultats annoncés tard samedi par la commission électorale. Alexandrine Ollongo nous en dit plus.
Nous avons gagné cette élection, nous sommes les leaders, nous avons les vrais résultats, a déclaré Nelson Chamisa qui est arrivé deuxième avec 44% des voix selon la commission électorale. Les Zimbabwéens se sont rendus aux urnes mercredi et jeudi pour choisir leur président et leurs députés. La bataille opposait principalement la ZANU-PF au pouvoir et la coalition des citoyens pour le changement, le plus grand parti de l'opposition. Le scrutin a été marqué par de nombreux dysfonctionnements selon les observateurs internationaux. Les défaillances pendant le vote, comme le manque de bulletins dans les bureaux, se sont multipliées, en particulier à Harare, un bastion de l'opposition. Emmerson Mnangagwa, qui s'est exprimé plus tôt dans la journée, a défié ceux qui contestent sa victoire d'aller en justice.
Et les États-Unis ont déploré aujourd'hui l'existence d'un parti pris contre l'opposition lors de cette élection au Zimbabwe et a appelé à davantage de transparence sur les résultats. En République démocratique du Congo, la défense du député Edouard Mwanga Chocho, accusé de complicité avec les rebelles du M23 et dont le ministère public a requis la perpétuité, a dénoncé aujourd'hui un procès de discrimination et de haine lié à l'appartenance ethnique. Interpellé début mars et accusé de trahison ou d'intelligence avec le M23, l'élu de Massissi, dans le Nord Kivu, est propriétaire d'une société minière stratégique, est détenu depuis lors et jugé par une cour militaire à Kinshasa. L'ambassadeur de France au Niger est toujours en poste malgré l'ultimatum de 48 heures donné par la junte pour qu'il quitte le pays. Paris dit ne pas reconnaître les putschistes et que le diplomate va rester à Niamey. Les précisions avec Dili Diko.
La France oppose une position de fermeté au Niger, affirmant que le régime militaire n'a pas d'autorité pour demander le départ de l'ambassadeur français Sylvain Ité. Le président Emmanuel Macron a d'ailleurs salué ce lundi les efforts des diplomates français qui travaillent dans des conditions difficiles, citant en particulier la situation au Niger. Vendredi soir, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, avec à sa tête le général Abdourahmane Tiani, a demandé le départ de l'ambassadeur de France à Niamey et dénoncé les accords militaires entre les deux pays. Des milliers de personnes ont manifesté dimanche près de la base française à Niamey, brandissant des pancartes demandant le départ des troupes françaises. Nous voyons naturellement avec inquiétude l'attitude anti-française de la junte, a déclaré Christian Wagner, l'un des porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères. Il répondait à une question sur la position de Berlin après la décision de la France de laisser son ambassadeur à Niamey et a confirmé que l'ambassadeur allemand aussi est toujours au Niger.
Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, du président déchu Mohamed Bazoum a dénoncé une campagne visant à le diviser plus d'un mois après le coup d'État. Ces dernières semaines, plusieurs publications sur les réseaux sociaux ont évoqué le rôle supposé de Mahamadou Issoufou, prédécesseur de M. Bazoum à la tête du Niger et également issu du PNDS dans le coup d'État du 26 juillet. Israël a nié aujourd'hui être à l'origine d'une fuite sur une rencontre entre son chef de la diplomatie et son homologue libyenne au lendemain de l'annonce officielle d'une telle entrevue par son ministère des Affaires étrangères qui a précipité le limogeage de la ministre libyenne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ex-président américain Donald Trump sera jugé à partir du 4 mars 2024 par un tribunal fédéral ici à Washington pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection de 2020, a annoncé aujourd'hui la juge Tanya Chutkan qui présidera les débats. La juge a tranché lors d'une audience entre la proposition du procureur spécial Jack Smith qui souhaitait que le procès de Donald Trump à Washington débute le 2 janvier 2024, un délai trop court selon elle et l'échéance lointaine d'avril 2026 réclamée par la défense, l'estimant bien au-delà de ce qui est nécessaire. Les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord pour discuter de l'application du contrôle des exportations et mettre en place un groupe de travail formel sur les questions commerciales, offrant à Pékin un forum pour exprimer ses préoccupations. Le point avec Rosine Monizero.
Les discussions doivent permettre la mise en place d'une plateforme pour réduire les tensions et malentendus, a déclaré la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, à l'issue de plusieurs réunions avec son homologue chinois, Wang Wentao. Une première réunion pour discuter de l'application du contrôle des exportations se tient demain, mardi, à Pékin. Les États-Unis et la Chine vont aussi convoquer des experts des deux parties pour des discussions techniques sur le renforcement de la protection des secrets commerciaux et des informations commerciales. Pékin a critiqué les mesures américaines pour bloquer son accès aux semi-conducteurs par le biais de contrôles à l'exportation, des mesures sur lesquelles les États-Unis ne vont revenir, a précisé Gina Raimondo. La Maison-Blanche a commencé à interdire certains investissements américains dans des technologies sensibles en Chine et prévoit prochainement de finaliser en octobre de vastes restrictions à l'exportation de semi-conducteurs.
Les services de sécurité russes ont annoncé aujourd'hui avoir inculpé un citoyen russe, ancien employé de la diplomatie américaine en Russie, arrêté en début d'année et accusé d'avoir transmis aux États-Unis des informations sur le conflit en Ukraine. Arrêté au mois de mai, Robert Chonov, ex-employé du consulat américain de Vladivostok, est accusé de collaboration confidentielle avec un État étranger. Il encourt 8 ans de prison. Le président turc Recep Tayyip Erdogan se rendra bientôt à Sochi en Russie pour discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine de la reprise de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, a annoncé le porte-parole de son parti. Aucune date n'a pour l'instant été communiquée par les autorités turques ou russes concernant cette visite. Une attaque aérienne menée par Israël a conduit à mettre hors de service ce lundi l'aéroport d'Alep, a annoncé le ministère syrien de la Défense. L'aéroport de Nérab, régulièrement utilisé pour les livraisons d'armes iraniennes et les déplacements de troupes, a été touché précédemment à plusieurs reprises par Saal, qui cherche à empêcher l'Iran d'utiliser les lignes aériennes pour livrer des armes à ses alliés, dont le Hezbollah libanais. Et puis, le pape François a déploré une église catholique jugée réactionnaire aux États-Unis où l'idéologie politique a pris le pas sur, dans certains cas, sur la foi. Le pape François a fait ses commentaires le 5 août lors d'une réunion privée à Lisbonne avec des membres de l'ordre jésuite. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Alexandrine Ollognon.
Les États-Unis et la Chine ont convenu de créer un groupe chargé de discuter des questions commerciales et d'échanger des informations sur les contrôles américains à l'exportation. La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a rencontré ce lundi à Pékin son homologue chinois, Wang Wentao. Les deux premières puissances économiques mondiales tentent depuis plusieurs mois d'atténuer leurs tensions bilatérales. Le géant italien des hydrocarbures Eni a annoncé ce lundi avoir démarré la production de pétrole et de gaz naturel du champ Baleine, situé au large de la Côte d'Ivoire, moins de deux ans après sa découverte. La production sera gérée conjointement avec la compagnie pétrolière ivoirienne Petrosi. Dans un premier temps, la production sera assurée par une unité flottante capable de traiter 15 000 barils de pétrole par jour et environ 25 millions de pieds cubes par jour de gaz associé. Le Rwanda a annoncé dimanche avoir signé un partenariat de 5 ans avec le club allemand du Bayern Munich, destiné à promouvoir le tourisme dans le pays et à y créer une académie de football. Dans le cadre de ce partenariat, le logo Visite Rwanda apparaîtra notamment sur les panneaux lumineux situés autour du terrain de l'Allianz Arena.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Basketball pour démarrer avec le mondial masculin en Indonésie, au Japon et aux Philippines.
Oui, l'Afrique cartonne aujourd'hui. Ses représentants lits ce lundi se sont tous imposés. Impressionnant lors du premier match perdu contre Porto Rico, le Soudan du Sud a battu la Chine 89-69. Les Sud-Soudanais restent troisième de leur poule B derrière Porto Rico et la Serbie et devront tout donner contre les Serbes mercredi pour espérer voir le tour suivant. Victoire également pour le Cap-Vert 81-75 devant le Venezuela. Les Cap-Verdiens sont aussi troisième de leur poule et affronteront la Slovénie mercredi lors de leur dernier match de groupe. La Côte d'Ivoire a disposé de l'Iran 71-69 et grâce à cette victoire, les Ivoiriens sont deuxième de la poule G avant leur dernière rencontre de groupe contre le Brésil mercredi. Hier, l'Angola a signé la première victoire africaine dans ce mondial de basket en battant les Philippines 80-70. Par contre, ça a calé une seconde fois pour l'Égypte qui s'est inclinée devant le Monténégro 89-74. Les États-Unis, eux, sont assurés de voir le deuxième tour après leur succès 109-81 dans le groupe C face à la Grèce. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour suivant. L'équipe africaine la mieux classée dans cette Coupe du Monde arrachera son ticket pour les Jeux Olympiques de l'an prochain à Paris.
Football, on jouait le tour préliminaire retour des interclubs de la CAF le week-end écoulé.
En Ligue des Champions, le Afia de Conakry, auteur d'un nul de but partout à Dakar contre Génération Foot, valide son ticket pour le tour suivant, tout comme Fa de Rabat qui a écrasé 7-0 les Togolais de l'ASCO de Kara. Qualification aussi pour Primeiro de Agosto, tombeur de l'AS Vita Club de Kinshasa, de l'ASEC d'Abidjan qui a battu 2-0 Coton FC du Bénin, même score en faveur de l'AS Real de Bamako sur le terrain de l'autre Coton, celui de Garoua. Les Maliens disputeront leur ticket pour la phase de groupe contre les Mauritaniens de Ouagadougou qui ont écarté les Libyens d'Al Ahly Tripoli.
L'autre représentant malien en Coupe CAF sera aussi au second tour.
Tout à fait, le stade malien s'est même baladé contre les Libériens de Ouattanga 7-1 sur l'ensemble des deux matchs. Un score qui n'a pas du tout emballé l'entraîneur du club du Bamako, Sekou Sek, déçu par le comportement de ses joueurs.
On a raté les occasions, pas possible. La seule chose, encore je vous dis, je retiens, on s'est qualifié. On va essayer de se corriger avant le prochain match. Je pense qu'ils vont comprendre qu'à ce niveau de la compétition, on n'a pas le droit de se déconcentrer. Je pense qu'on a des armes vraiment costauds, capables de relever n'importe quel défi. Donc on va travailler dans ce sens.
À l'instant, Sekou Sek Di Bako, entraîneur du stade malien de Bamako, au micro de notre correspondant dans la capitale malienne, Siaka Traoré. Ça passe aussi pour les Burkinabés de l'étoile filante de Ouagadougou opposés aux Sénégalais de Casasport. Et puis en revanche, l'aventure s'arrête là pour les Béninois de l'Otopopo sortis par le FUS de Rabat, 3-0 à l'aller et 2-0 au retour. Comme l'année dernière, aucun club béninois ne passera le premier tour de ces deux compétitions.
Page des sports VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les Gabonais attendent toujours les résultats des élections générales, présidentielles, parlementaires et municipales qui ont eu lieu samedi 26 août. L'opposition crie victoire, le parti au pouvoir ne dit rien pour le moment. La commission électorale poursuit la compilation des résultats. Yacouba Ouedraogo a joint notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
C'est une ambiance des lendemains de vote un peu lourde, hein, qui inquiète plus qu'elle ne rassure. C'est le cas à Libreville et un peu partout dans les principales villes du pays. Port-Gentil, Franceville, Oyem, Omouila, Libreville et ses chefs lieux de province de l'intérieur du pays assistent à un dispositif de sécurité assez renforcé dans presque tous les quartiers, pour ne parler que de Libreville. Les contrôles policiers sont renforcés, les véhicules sont fouillés systématiquement. Et des chauffeurs également. On voit également un déploiement des engins blindés pratiquement à chaque coin de rue. Les Gabonais, pour ce qui les concerne, ils sont un peu impatients en attendant donc les résultats de ce scrutin. Mais du côté du Centre Gabonais des élections, on assure que la compilation des opérations de vote se poursuit de façon positive et que d'ici au plus tard demain, on pourrait avoir les premières tendances de ces opérations de vote.
Est-ce que les Gabonais arrivent à vaquer tranquillement à leurs occupations?
Oui, les Gabonais vaquent quand même à leurs occupations. Vous savez, c'est le premier jour de la semaine après les opérations de vote. On a vu des gens aller quand même à leur bureau ce matin, mais ce qui embête un tout petit peu parce que les usagers, les administrations n'ont pas accès à Internet, donc ce qui fait que beaucoup d'administrations ont dû arrêter le travail un peu plus tôt aujourd'hui. Dans la rue, les gens ne sont pas si inquiétés que ça. Seulement, ce dispositif de sécurité qui est assez impressionnant.
Comment ça se prépare, hein, de part et d'autre? Je vais parler par exemple du côté de l'opposition et donc la coalition Alternance 2023 et du côté du parti au pouvoir, le PDG, dans l'attente des résultats.
Au niveau du Parti démocratique gabonais, on communique pas du tout. Alors là, c'est pratiquement la loi de l'omerta. J'ai par exemple parcouru le siège du Parti démocratique gabonais hier en après-midi avant l'heure du couvre-feu qui est de 19h. Je n'ai vu personne autour du siège du Parti démocratique gabonais, mais donc vous voyez que au niveau de l'alternance 2023, c'est la première sortie du genre, alternance 2023 qui dit avoir la vérité des urnes avec elle et qu'elle se réserve le droit de communiquer quelques tendances que ce soit, mais sauf qu'ils estiment que leur candidat est en tête des opérations de vote, ce qui reste à l'appréciation du Centre gabonais des élections qui travaille présentement sur la compilation des opérations de vote.
Est-ce qu'il y a un délai donné pour proclamer les résultats de ces élections générales?
Pas de délai. On se rappelle qu'en 2016, on avait dû attendre 4 jours. Peut-être que ça pourrait aller un peu plus au-delà des 4 jours. Aussi, on s'en tient au caractère inédit de ces élections qui ont combiné la présidentielle, les législatives et le local. Donc, on se dit, mathématiquement, ça pourrait prendre un peu plus de temps parce qu'il faut compiler tous ces bulletins à travers les 9 régions du pays, y compris les départements. Donc, c'est un travail fastidieux. Maintenant qu'on nous rassure que la compilation s'accélère, on se dit que bon, ça pourrait prendre peut-être moins de temps qu'en 2016.
Notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Tchad, plusieurs partis politiques de l'opposition entendent se battre pour empêcher la tenue du processus référendaire en cours. Pour ces acteurs politiques, organiser un référendum autour du seul projet de constitution est une manière de demander au peuple tchadien de valider la continuité du régime. Une autre plateforme des partis politiques favorables à la transition estime que ceux qui sont contre ce projet sont minoritaires. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Badon Odaigoré, le président du parti Union des écologistes tchadiens Les Verts, membre de la plateforme républicaine de concertation des acteurs politiques. Il affirme que son organisation compte sur la détermination du peuple tchadien pour empêcher la poursuite de ce processus.
Toute transition devrait être d'abord désintéressée. Nous avons constaté que ceux qui dirigent cette transition ne sont pas impartiaux. Donc ils ont un agenda, certainement, la dévolution dynastique. Donc il faut faire un barrage et de façon énergique. On préfère mieux qu'on prolonge la transition que d'avoir une transition boiteuse.
Max Kamkoui, un autre membre de la plateforme hostile à cette transition, dévoile les actions à mener dans les jours à venir pour bloquer la tenue de ce référendum qui ne prend pas en compte, selon lui, l'aspiration du peuple tchadien.
Un plan d'action singulier assorti d'actions musclées de 120 jours d'activisme citoyen est élaboré pour être exécuté. Et 220 comités d'action stratégique et de mobilisation active de masse seront créés dans 19 provinces et 91 départements clés. L'heure n'est plus au combat solitaire de calcul de partage du pouvoir. La priorité, c'est la restauration de la République, la démocratie et du respect des droits et libertés de chaque citoyenne et citoyen tchadien de vivre libre et en toute dignité. Et le passage pour y arriver, c'est d'arrêter le processus inique en cours pour lequel chaque citoyen tchadien épris de justice et d'égalité est appelé à y adhérer.
Un autre groupe des acteurs politiques surgit et apporte tout son soutien aux autorités de transition et au processus référendaire en cours. Dr André Bondo Kaikula fait partie de cette plateforme.
Notre organisation est une plateforme des partis politiques qui soutiennent farouchement la transition. Parce que nous avons estimé que le Tchad a trop souffert et nous avons beaucoup attendu. Et donc nous allons continuer sur cette lancée pour que le processus puisse aboutir.
D'ailleurs, les acteurs de cette transition sillonnent déjà les différentes provinces pour sensibiliser les populations, informe à VOA Afrique, Dr André Bondo Kaikula.
Nous avons déjà dépêché un groupe de 7 volontaires qui sont déjà sur le terrain, qui sont en train de travailler dans le cadre de soutien du processus. Nous sommes très nombreux. Nous avons commencé avec 50 partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes à 62 partis politiques. C'est ça la démocratie. Ils vont exprimer leur voix. Nous aussi, nous allons exprimer notre voix et la majorité remportera.
15 organisations de la société civile craignent le pire à l'avenir et demandent à la communauté internationale de ne pas financer le processus en cours. Maître Delphine Kenelum Diraibé fait partie de cette organisation.
Les Nations Unies doivent inscrire la question tchadienne en priorité dans leur agenda afin de soutenir une démarche porteuse de paix et ne pas attendre le chaos ou un autre coup de force pour toujours réagir au détriment des populations.
Après la zone sud, les agents recrutés par la commission chargée de la révision des listes électorales pour l'organisation de ce référendum seront déployés à partir de ce lundi dans 16 provinces du nord concernées par cette opération. André Kordoma Djingar, Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM. Au Tchad.
Au Bénin, un groupement de professionnels et de familles qui s'intéressent aux troubles de l'enfance essaie tant bien que mal de déconstruire les mythes et les préjugés qui entourent les enfants autistes et trisomiques. La tâche n'est pas facile, mais les résultats obtenus en peu de temps augurent de lendemain meilleur pour les parents ainsi que pour les enfants souffrant de ces troubles. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Nous sommes ici à la Chrysalide, un centre qui s'occupe de l'intégration des personnes souffrant de déficience mentale, surtout les enfants atteints d'autisme et de trisomie au Bénin. Claudine Daizo est psychologue et directrice de Chrysalide. Elle se bat pour que les droits de ces enfants soient respectés.
C'est un trouble envahissant du développement. Toute la croissance est atteinte, mais on ne trouvera jamais deux autistes pareils. Donc c'est une affection qui est vraiment très difficile à décrire. Mais l'image qu'on peut garder, qui est commune presque à toutes les personnes qui sont atteintes d'autisme.
Malgré l'investissement de nombreux professionnels pour faire connaître l'autisme, les enfants qui en souffrent continuent d'être marginalisés ou simplement éliminés dans certaines régions. Un enfant atypique qui ne parle pas est très tôt pris pour un sorcier dans certaines sociétés. Claudine Daizo implore l'indulgence des parents et surtout de la société.
Comme on estime qu'ils ne sont pas à leur place, on les faisait repartir. Entre guillemets, on pouvait déposer sur une termitière ou de l'eau. Et dans l'eau, on les aide à repartir dans leur pays ou là où elles devraient être. Alors fort heureusement, ça a beaucoup diminué, mais ça existe sous d'autres formes. Hein.
Ces conseils donnés lors d'une journée d'information sur l'autisme et la trisomie restent une aubaine pour les parents en détresse, ne sachant quoi faire devant les comportements particuliers de leurs enfants. Quelques-uns parlent de leurs difficultés.
Ça a été une longue histoire. Je n'ai pas tout de suite appris qu'il était autiste. Mon fils, il a eu du mal à s'asseoir, il a eu du mal à marcher et je ne savais pas trop ce qu'il avait. Mon fils, il ne parle pas. Mon fils, il n'est jamais allé à l'école parce que aucune école n'a pu l'accepter jusqu'à aujourd'hui à part la chrysalide.
Et pour les autistes, tout s'arrange. Pour ceux souffrant de la trisomie 21, le chemin paraît encore plus long, même si des efforts sont faits. Considérés à tort comme des enfants sorciers ou la réincarnation de certaines divinités, certains craignent toujours d'être les parents d'enfants trisomiques. Camille Epoing a un enfant de 6 mois diagnostiqué trisomique. Il raconte sa douleur.
On vous dit que votre enfant est trisomique. Sincèrement, moi, j'ai failli gifler la pédiatre. Durant toutes les échographies qu'il y a eu, on n'a jamais été informé de quoi que ce soit, de quelque anomalie que ce soit. Et maintenant, à la naissance, subitement, on nous balance cette information. Je suis même allé même jusqu'à même consulter l'oracle. On m'annonce que oui, telle divinité qui s'est réincarnée en enfant. Pourquoi la divinité ne peut pas choisir une autre personne?
Monsieur Camille a dépensé beaucoup, espérant renverser spirituellement une situation purement scientifique. Ils sont nombreux, les parents au Bénin, qui, par peur des préjugés, n'acceptent pas avoir des enfants avec ces gens de troubles. Yves Ezin-Okwiti est un animateur chargé de sport et de la santé à la chrysalide.
Nous accueillons les enfants du mardi au vendredi. Les parents amènent les enfants le matin et viennent les chercher déjà à partir de 16h. Déjà à 9h30, ils prennent leur petit déjeuner. À 10h, les activités commencent par la pratique. La pratique, c'est pour travailler la motricité des enfants. Nous les accompagnons dans le domaine de l'autonomisation.
En plus de la chrysalide, il y a également autisme bénin, né du constat que les troubles du spectre autistique sont encore peu connus au niveau local. Elle entend œuvrer pour éliminer les mythes socioculturels qui entourent encore ce genre d'affection et qui contraignent les parents à garder leurs enfants à la maison, voire à les cacher. Du Cotonou, Ginette Fleur Adané pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Dans la course à la présidence de 2024, l'éligibilité de l'ancien président Donald Trump est à nouveau remise en cause. Malgré tout, les sondages placent l'ancien président américain largement en tête des candidats républicains à l'élection présidentielle. Véronica Balderas-Iglesias de la VOA fait le point, le récit Lionel Gaïma.
L'ancien président Donald Trump s'est rendu dans une prison d'Atlanta en Géorgie et c'était à la une des journaux du monde entier. Ainsi, ses ambitions politiques sont à nouveau examinées à la loupe. Monsieur Trump fait l'objet de 91 accusations criminelles réparties sur 4 inculpations. Parmi ses concurrents à l'investiture républicaine, l'ancien gouverneur de New Jersey, Chris Christie, interviewé dans l'émission This Week sur ABC, a laissé entendre que Trump est un handicap pour son parti.
La majorité de mes concurrents pensent que l'on peut avoir un criminel condamné comme candidat à la présidence, qu'ils soutiennent cela et qu'ils pourraient gagner. Je pense que c'est impossible.
Le candidat républicain Vivek Ramaswamy, qui a participé la semaine dernière au premier débat de son parti aux côtés de Chris Christie, a reconnu les réalisations de M. Trump lors d'une interview à l'émission Meet the Press sur la chaîne NBC.
Je veux construire sur les fondations que Trump a posées. Franchement, je l'inviterai en tant que conseiller et mentor. Je ne peux pas apprendre les mêmes choses. Je veux reprendre là où il s'est arrêté.
Qu'en est-il dans le camp démocrate? Les problèmes juridiques de Donald Trump ne feront pas partie de la stratégie de campagne du président Joe Biden pour sa réélection en 2024, a déclaré à la chaîne ABC Cédric Richmond, coprésident de la campagne de Biden.
What I will say about President Biden.
Mais ce que je dirais à propos du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris, c'est qu'ils se sont toujours concentrés sur le peuple américain. Ils vont donc continuer à faire leur travail de réduction de l'inflation, d'augmentation des salaires et de reconstruction de la classe moyenne.
Alors que l'âge du président Biden continue d'inquiéter les électeurs démocrates, le sénateur indépendant Bernie Sanders, qui a participé à l'émission de NBC, a suggéré de se concentrer plutôt sur les enjeux politiques.
Croyez-vous que les femmes ont le droit de disposer de leur corps? Le président s'est montré ferme sur ce point. Pensez-vous que le changement climatique est réel? Ou êtes-vous d'accord avec les républicains pour dire que ce n'est pas un problème?
Pour sa part, M. Trump nie tout acte répréhensible sur l'utilisation de toutes ces enquêtes criminelles pour renforcer sa candidature présidentielle de 2024. Il fait surtout la promotion de sa photo d'identité prise à la prison, qui est maintenant imprimée sur toutes sortes de marchandises et gadgets pour collecter des fonds pour la campagne.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Bonne soirée à tous.